Bonjour et bienvenue dans ce magazine de la RAM consacré aujourd'hui au SYME 05. Alors ça s'écrit SYME 05, et le SYME 05, eh bien c'est le syndicat mixte d'énergie. Aujourd'hui, historiquement c'était le syndicat mixte d'électricité, mais bon, le nom a évolué, on va peut-être voir pour quoi en compagnie de nos invités. Jean-Claude Doux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du SYME et Stéphane Raisin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du SYME. Alors Jean-Claude Doux, peut-être un petit peu de retour sur l'histoire de cette structure.
Alors tout d'abord, je ne suis pas président, je suis vice-président en charge de la transition énergétique au SYME Énergie 05. En fait, l'histoire, le SYME 05 existe depuis 2012 et depuis le 1er janvier 2018, c'est le SYME Énergie 05 qui a pour compétence, qui avait pour compétence régalienne, donc la distribution publique d'énergie électrique, et qui, il y a 3 ans de cela, a mis en place une nouvelle stratégie en matière de transition énergétique. Et il a établi 7 points et établi un livret à l'attention des maires des communes du département, des 160 maires, puisque 160 maires adhèrent au SYME Énergie 05. Donc depuis 3 ans, donc nous avons une nouvelle compétence, en tout cas une nouvelle stratégie en matière de transition énergétique.
Alors là, vous êtes allé déjà trop vite pour moi, en tout cas. J'ai entendu que le SYME avait comme compétence régalienne la distribution d'électricité. Et je m'interroge parce que on pensait que peut-être c'était EDF ou peut-être RTE qui distribuait l'énergie, Stéphane Raisin.
Oui, alors revenons sur un peu d'histoire, quelques fondamentaux. D'abord, ce qui est peu connu des Français, surtout le français d'aujourd'hui, c'est que le service public d'électricité est organisé par les communes depuis les anciennes lois de 1884, donc on est sur des lois du 19e. C'est peu connu par le français, et c'est vrai que depuis 45, loi de nationalisation de l'électricité et du gaz, donc pour reconstruire la France dans cet état de ruine qui était la France après-guerre, il y a eu la création des grands services industriels qu'on connaît, donc pour l'électricité EDF, qui a eu pour charge de reconstruire le service public d'électricité, d'amener l'électricité jusqu'au fond du domaine et des vallées, en domaine rural. Et classiquement, historiquement, on a tous l'impression que le réseau électrique appartient à EDF, qui a été donc dans les lois de toutes récentes, avec les directives européennes, transformé en deux groupes, deux entreprises, une entreprise RTE qui a la délégation pour le compte de l'État sur les très hautes lignes, et puis Enedis aujourd'hui, alors qui était EDF et puis qui est devenu Enedis pour les lignes de distribution, donc pour la gestion au quotidien des lignes jusqu'au plus près du client. À noter que quand on parle d'organisation de services publics, à partir du moment où ça appartient aux communes, c'est les communes qui s'organisent librement. Et on avait l'exemple dans le département, qui est le cas de DSB sur la commune de Briançon et Saint-Martin-de-Carrière, qui historiquement, les communes ont gardé leur régie publique d'électricité, qui sont devenues entre-temps des sociétés d'économie mixte. Mais vous avez cet exemple dans le département qui fait que le service public de l'électricité s'organise sous l'autorité des communes, où aujourd'hui, les 160 communes ont fait confiance et ont créé un syndicat départemental, donc par le président de cette intercommunalité qui est le SYME Énergie 05.
Alors, 160 communes adhérentes, est-ce que ça représente toutes les communes des Hautes-Alpes? Non, puisque Briançon et Saint-Martin-de-Carrière en sont exclus, également exclus Gap.
Tout à fait. Donc il y a seulement 3 communes qui ne sont pas membres, comme vient de le dire le directeur Stéphane Raisin. Donc Briançon et Saint-Martin-de-Carrière parce qu'ils sont organisés en régie, et Gap pour d'autres raisons qui font qu'aujourd'hui Gap n'est pas adhérente au SYME Énergie 05.
Donc ça, c'est ce que vous appelez la compétence régalienne, donc c'est la distribution d'électricité.
C'est ça.
Donc comment vous travaillez, comment vous travaillez avec Enedis, quoi, parce qu'à un moment donné, il y a des interactions, j'imagine.
Bien sûr, alors rappelons encore quelques fondamentaux, il s'agit d'une délégation de services publics. Et donc c'est Enedis qui exploite, entretient, à ses risques et périls, le réseau de distribution publique, comme toute concession. Quand on délègue, on doit contrôler. Et c'est le premier rôle du SYME que de contrôler la bonne organisation du service public, que tout client sur le territoire départemental, vous avez donc en fait cette même organisation sur tous les départements de France, tout client sur le territoire donc national soit traité de la même façon, de façon équitable, et finalement un droit à l'électricité identique. Alors c'est tout l'enjeu, c'est notre premier travail. On se doute bien qu'une concession rurale de montagne des Hautes-Alpes, on n'a pas les mêmes critères qualité que quand on est sur Marseille ou sur Lyon. Donc c'est tout notre rôle d'expliquer de travailler sur les investissements communs pour concourir à une bonne qualité de service. Et donc, à partir du moment où on a une délégation, il y a un contrat. Et le contrat, c'est ce qui dicte le qui fait quoi dans le département. Donc, dans cette compétence régalienne, Enedis exploite, entretient les ouvrages. Et nous, donc on s'est séparés dans les Hautes-Alpes, le monde en deux parties. Les communes rurales, moins de 2000 habitants, c'est le CIM qui fait les investissements, les raccordements électriques. Et les communes de plus de 2000 habitants, c'est Enedis.
Et alors, cette concession, c'est une concession à long terme, j'imagine.
Ce sont des contrats qui ont été signés dans les années 1994 pour 30 ans. Le renouvellement de la concession arrive en 2024. Et donc, ça promet de belles discussions.
Ah voilà, donc c'est pas gagné pour Enedis, hein, c'est ce que vous nous dites.
Hein. Alors, c'est pas gagné. On est quand même dans un monde où énormément régulé. Hein. L'État fixe les tarifs régulés pour le citoyen, pour le consommateur. Il y a une partie des tarifs qui sont ouverts à la concurrence. Et dans cette régulation, vous comprenez que dans la séparation comptable et administrative de RTE et d'Enedis, il y a une partie qui impose une automaticité de renouvellement. Donc, pour le moment, les directives européennes n'ont pas ni attaqué le droit français sur l'ouverture des concessions. Je dis pour le moment, parce que c'est en débat permanent sur le droit, en fait, finalement, des concessions en France.
Bon, ben merci pour ces éclaircissements. Alors, Jean-Claude Doux, vous parliez d'autres missions, d'autres pôles que cette distribution d'énergie, donc qui incombe, d'électricité du moins, qui incombe au CIM 05. Donc, quelles sont ces autres missions?
Alors, effectivement, le CIM Énergie 05 a pris un certain nombre de compétences depuis 3 ans, donc, depuis les changements de stratégie, notamment face à la promulgation de la loi sur la transition énergétique. Donc on a voulu se placer aussi dans cette optique-là. Et notamment aujourd'hui, on intervient sur un certain nombre de sujets que peuvent être, en tant que maître d'ouvrage, les picocentrales hydroélectriques, l'hydroélectricité plus grosse. On intervient sur la biomasse éventuellement, sur les réseaux de chaleur.
Ça veut dire quoi, on intervient?
En tant que maître d'ouvrage.
En tant que maître d'ouvrage.
C'est-à-dire on peut être le maître d'ouvrage, mais la possibilité est laissée à la commune pour qu'elle le fasse elle-même. Nous, on peut intervenir ensemble en apportant notre ingénierie, mais on peut aussi intervenir en tant que maître d'ouvrage. Ça, c'est des décisions qui sont prises en commun entre les CIM Énergie et les communes concernées par les dossiers. Ensuite, on a une politique aussi sur les déchets de chantier. Et puis, on a un dossier qui est extrêmement actuel et qu'on a mis en place depuis 3 ans. Il s'agit de... On a répondu à un appel à projet de l'ADEME, donc, et de l'État français, qui s'appelle un projet IRV, infrastructure de recherche pour véhicules électriques, qui consistait à mettre en place sur le territoire français un certain nombre de points de charge, avec des objectifs extrêmement ambitieux pour les années 2020-2030. Il se trouve que, lors de la parution de ce plan, qui était un plan qui était remis entre les mains du privé essentiellement, on s'est aperçu, nous, CIM Énergie 05, qu'entre Manosque et Grenoble, il n'y aurait aucune borne de charge pour véhicules électriques installée. Donc il était de notre devoir, de notre compétence, de notre volonté politique, nous, d'installer pour le compte du public, puisqu'on est quand même un organisme public, des bornes de charge sur notre territoire. À partir de là, on a travaillé avec 3 bureaux d'études, un bureau d'études qui s'occupait de la partie juridique, un autre de la partie technique, un troisième des flux allés et venus, etc., pour déterminer et mettre en place une carte sur le département qui permettait à tout véhicule électrique de pouvoir se recharger tous les 25 kilomètres.
Le CIM Énergie 05, c'est notre sujet du jour dans ce mag de la RAM en compagnie de Jean-Claude Doux et Stéphane Raisin. Avant ces quelques notes de Django Reinhardt, Jean-Claude Doux, vous nous avez indiqué que une des missions du CIM a consisté à équiper le territoire haut-alpin de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Alors Stéphane Raisin, où en est-on de ce programme lancé il y a quelques années ?
On a commencé il y a 2 ans avec la première mise en service des bornes tout début janvier 2017. Une aventure parce que pas simple. On a un plan sur 80 bornes qui a été délibéré par les élus. Donc 1,6 million d'investissement, 1,6 million d'investissement TTC et installer 80 bornes de recharge avec les communes, c'est pas simple parce qu'en fait je veux pas dénigrer, c'est pas un banc public, c'est pas facile parce que une borne ça prend des places de parking, c'est un objet connecté par excellence parce qu'il faut que ça fonctionne, c'est un outil industriel qu'on déploie pour un service public donc accessible depuis le public donc pour l'usager, ce qui veut dire qu'il faut que ça soit du 24/24, il faut que ça fonctionne 7 jours sur 7. Et donc il a fallu défricher, mettre en place tout un tas d'organisations avec les entreprises, avec les communes. Aujourd'hui, on en a concrètement 75 en service dans le département. Les 5 dernières devraient être financées. Hein, donc on attend des financements de la région pour clôturer la fin des installations.
Alors une borne tous les 25 kilomètres, 75 d'ores et déjà disponibles. Des places de parking en moins, vous l'avez dit. Pour ces bornes, il y a une matérialisation en verre hein, par terre pour qu'on puisse garer sa voiture. Il n'y a pas souvent des voitures devant les bornes.
Non. C'est l'histoire de la poule et de l'œuf. On s'en sortira jamais, c'était de savoir si le citoyen automobiliste allait un jour passer au véhicule électrique. C'est pas évident. C'est un pas qui est, il y a 2-3 ans, quand on parlait des autonomies de voiture, ça faisait peur à tout automobiliste. Moi, le premier, hein, j'ai acheté une voiture il y a 3 ans. On avait du mal à faire, je vais donner quelques distances, mais enfin, on faisait un gap Briançon. On pouvait pas redescendre, il fallait charger entre-temps. Donc aujourd'hui, c'est plus le cas. La démocratisation de la voiture électrique est en marche. Des voitures qui ont plus d'autonomie, de plus en plus d'autonomie. Des voitures qui sont aussi fiables. Donc le véhicule électrique, ça fonctionne dans les Hautes-Alpes. C'est aussi peut-être l'objet de la discussion suivante sur le fait qu'on souhaite mettre en place un salon de la mobilité pour montrer aux citoyens que ça fonctionne. Mais surtout, aujourd'hui, on a 400 voitures électriques hein, immatriculées dans le département. On voit que ça décolle parce qu'il y a plusieurs effets conjoncturels hein, et politiques qui sont en cours. D'abord parce qu'il y a une volonté de décarboner la voiture. On nous annonce la volonté également de l'État de mettre la parité essence diesel. Et puis il y a quand même aussi un autre phénomène, c'est les engagements par rapport à la COP21 des États de l'Europe à descendre les émissions de CO2, en particulier donc les CO2 par kilomètre. C'est-à-dire décarboner la voiture et les transports, c'est un gros challenge. Et donc les critères européens font que les constructeurs de véhicules, vont passer à l'électrique parce que les contraintes de rejet sont telles que on est arrivé à la limite technique du progrès dans la diminution des rejets carbonés. Il faut passer avec nos technologies. La technologie hybride et peut-être certainement, alors très rapidement peut-être pas, mais demain l'hydrogène. Donc voilà pourquoi il y a tout un tas de facteurs. Si aujourd'hui c'est très intime les charges par rapport à répondre à votre question, on a nous la prétention de croire qu'il fallait commencer. Et donc on a dit on a statué, on commence à faire l'œuf et puis demain il y aura des poussins.
Alors oui, alors combien de poussins pour le moment?
Donc, alors, je vais donner quelques chiffres très rapides. On a quand même constaté entre la première mise en service, 1er janvier 2017, jusqu'en fin d'année 2017, une évolution de 14%. Alors, on partait de zéro, hein, donc c'est facile de donner ces chiffres. Cependant, rassurons-nous, on vient de faire au mois de juillet l'équivalent de une année. Donc, en nombre de charges et en puissance électrique de ce qu'on a fait en 2017. Donc, on voit bien que ça progresse.
Et est-ce qu'on sait qui sont les utilisateurs ?
Oui. On sait parce que on a via les réseaux sociaux, on piste pas les clients. On sait via les réseaux sociaux parce qu'on est très vite informé quand une bande fonctionne pas. Et donc on arrive à profiler comme cela par l'expérience. Il y a une application, il y a des applications sur Internet qui existent. Donc c'est principalement majoritairement du grand public. C'est de la voiture, et tout type de voiture. Alors au départ, c'était de la très grosse voiture, d'un modèle de luxe américain. Aujourd'hui, on voit plutôt de la voiture française, puisque pour la citer, la Renault Zoé est vendue à 60% quand même, y compris dans les Alpes, représente 60% des parts de marché. Donc c'est du citoyen et plutôt du particulier.
Et plutôt du haut alpin ou plutôt du touriste?
Alors, on a ce département nous colle à la peau. On a deux vagues en fait, une sorte de consommation en bosse de dromadaire. On a principalement du touriste dans la période de février-mars, du haut alpin dans la période d'avril-juin, et puis à nouveau du touriste, plus de 50% de fréquentation dans la période juillet-août.
Alors ces bornes, en fait, il en existe de deux types.
Oui, donc une borne type accélérée ou charge dite normale. On est plutôt sur de la charge sédentaire, c'est-à-dire qu'il faut rester une bonne heure, une heure, surtout avec les nouveaux véhicules électriques, pour se recharger, pour refaire un plein. Mais je vous donnerai quelques statistiques parce que c'est pas l'usage en fait de ces bornes. Et puis des bornes type rapide, et là on est plutôt sur le modèle de la station-service, où on vient faire un plein, on vient reprendre du kilomètre très rapidement. Là on reste entre 10 minutes et un quart d'heure.
Et sur les 75 bornes qui sont installées, quel est le prorata, la proportion entre les normales et les rapides?
Pour le moment, principalement les normales sont utilisées. Donc, et ça vient en fait des modules de recharge qu'il y a dans les véhicules, puisque on est dans un monde économique avec donc énormément concurrentiel. La voiture, j'annonce une vérité qui est très vraie déjà avec le véhicule conventionnel. Et donc, on a tout un tas d'options commerciales dans la voiture. Parmi ces options, il y a les fameux chargeurs embarqués dans les voitures. Mmh. Et donc, chaque fois que vous prenez des options de modules de charge, c'est un coût complémentaire pour l'achat du véhicule. Donc, tous les clients ne prennent pas le module de recharge rapide.
Donc, donc ça dépend pas. On n'a pas forcément le choix, quoi. C'est ce que vous dites.
Vous l'avez en fait ce choix à l'achat de la voiture.
Voilà.
Mais après, vous l'avez.
Et après, on l'a plus. Donc, ce qui fait que le parc de bornes haut alpin, c'est essentiellement parce que est-ce que ce sont les mêmes bornes à chaque fois? Est-ce que sur chaque borne, on a l'option normale et l'option rapide?
Non, ce sont deux types de bornes bien différents.
Voilà.
On a voulu mettre d'ailleurs, c'était très cohérent sur quelques communes, mettre les deux en même temps. Et puis surtout, on a voulu espacer parce que ce qui compte. Attention, on revient sur les fondamentaux. Il s'agit de recharge publique. C'est pour réassurer, en fait, et on le voit bien avec nos utilisations. Ce n'est pas pour faire un plein complet de la voiture.
Le plein, on fait chez soi.
Exactement. On utilise finalement la borne lorsque la voiture est immobilisée dans les temps sédentaires. Donc, à la limite, on en a mis des bornes en parking. Ça a redynamisé certains centres-villes. Donc, juste une statistique très rapide, la moyenne sur toutes les charges qu'on fait depuis le début d'année, c'est qu'on reprend 70 kilomètres, entre 70 et 100 kilomètres, pas plus, alors qu'une voiture en montagne dans les Hautes-Alpes fait 280-300 kilomètres si vous faites un plein complet. Donc vous voyez bien qu'en fait, ces bornes, c'est plutôt de la réassurance publique pour pouvoir finir un trajet, pour pouvoir faire un petit saut de puce, ou pour se garantir finalement qu'on parce qu'on n'a pas le temps, on sait très bien qu'on va repartir, qu'on puisse faire un aller-retour. Donc il s'agit de, et ça répond bien en fait à cette la commande publique qui nous avait été donnée à l'époque, c'est de mettre en place un plan borne pour réassurer l'automobiliste.
Oui, mais alors Jean-Claude Doux, moi je suis automobiliste, j'ai besoin de me réassurer pour aller les 50 kilomètres qui me restent à faire. Qu'est-ce que je fais pendant une heure, pendant que ma voiture recharge?
Bien, il se trouve que déjà dans le plan d'implantation de ces bornes, on a tenu compte du fait qu'on soit à proximité de commerce. Mais vous aurez aussi la possibilité, parce que ce sont des bornes qui sont interactives, c'est-à-dire de vous brancher et d'avoir un réseau Wi-Fi public qui vous permettra de continuer à travailler sur votre ordinateur ou sur votre portable.
Voilà, donc des objets connectés, hein, c'est ce que vous disiez.
Tout à fait.
Ouais. Donc ça, c'est pour les voitures. Combien ça coûte d'ailleurs?
Une voiture?
pas une voiture, de recharger.
Alors, on a, si vous êtes client du réseau e-Born, ce dont on espère, comme au Alpang.
D'ailleurs, on prend un abonnement.
Voilà, vous avez le réseau e-Born, aujourd'hui, c'est 5 départements couverts. Donc, il y a la Haute-Savoie, donc il y a l'Isère, il y a la Drôme, l'Ardèche et les Hautes-Alpes.
Et tout ça, c'est piloté par Sim Énergie 05?
Alors, on a un consortium de 5 syndicats d'énergie. Et la marque, le nom et le pilotage vient du Sim 05, oui.
E-Born.
Donc, vous avez, en achetant une carte abonnée e-Born, la possibilité de vous charger sur ces 5 départements avec une tarification unique et avec la certitude aussi d'avoir de l'énergie verte. Parce qu'on certifie à nos bornes l'achat d'énergie renouvelable 100% vert. Donc ça, c'est une démarche politique des 5 présidents et des 5 syndicats d'énergie des 5 départements. Donc vous avez en fait un fichier client, vous vous abonnez et vous avez des tarifs préférentiels. C'est 24 centimes le kilowattheure. On facture au kilowattheure. C'est beaucoup plus simple. Alors kilowattheure, c'est peut-être pas forcément matériel par rapport à un litre d'eau, parce qu'on voit bien ce que c'est qu'un litre d'eau.
Dites-moi combien ça me coûte pour faire un kilomètre.
Donc alors vous allez en avoir pour 2 euros 30. Pas pour faire un plein, hein, pardon. Pour faire un plein. Pas pour faire un kilomètre.
Oui, et pour faire un kilomètre?
Il faudrait que je le calcule. Disons que vous en avez pour une quarantaine de centimes. Non, excusez-moi. Pour faire une dizaine de kilomètres, une quarantaine de centimes.
40 centimes pour 10 kilomètres.
Donc ça fait, oui, c'est ça, 4 centimes pour un kilomètre.
Oui, c'est moins cher qu'un carburant.
Ah oui, c'est moins cher. Si vous faites un plein complet, vous en avez pour... alors admettons, le plein complet, c'est que si on compare... On va comparer pour 700 km avec du carburant conventionnel. Pour faire 700 km en électrique, vous en avez pour 8 euros. Avec un carburant conventionnel, si vous faites le plein, vous en avez plutôt pour 60-70 euros.
Voilà, donc c'est à peu près 10 fois moins cher. Pas tout à fait, mais presque. Quoi.
Alors le coût du véhicule est plus cher.
Voilà, on parle là en consommation. On parle énergie aujourd'hui en compagnie de Jean-Claude Doux et Stéphane Raisin, respectivement vice-président et directeur du Sim Énergie 05. Stéphane Raisin nous a expliqué le fonctionnement du réseau e-Born qui permet donc de recharger des véhicules électriques. Par véhicule, on entend essentiellement des voitures. Mais Jean-Claude Doux, on sait bien qu'il y a beaucoup de vélos électriques, de vélos à assistance électrique qui se développent. Est-ce qu'on peut recharger un vélo sur une e-Born?
Alors, je vais répondre que d'une part, on a équipé toutes nos bornes. On a la possibilité, effectivement, de mettre des racks, c'est-à-dire plusieurs vélos, pour se brancher sur nos bornes. Mais, à l'instar de ce que l'on a fait pour le véhicule, c'est-à-dire qu'on a mené une réflexion avec 3 bureaux d'études sur l'ensemble du territoire du département des Hautes-Alpes. On est en train de lancer, par l'intermédiaire des communautés de communes du département, une réflexion, dans un premier temps, sur, au travers d'un comité de pilotage, sur où on va implanter. Est-ce qu'on le met au sommet? Est-ce qu'on le met en bas de la montagne? Est-ce qu'on le met près des commerces? Est-ce qu'on les met sur les zones de covoiturage? Donc, on est en train de lancer donc un projet avec les communautés de communes pour déterminer à quel emplacement on pourra installer des bornes pour les vélos électriques.
Donc, ce serait des bornes différentes ou ce serait un raccordement à partir des e-bornes existantes?
Ça pourrait être à la fois à partir des bornes existantes, puisqu'on a la possibilité technique de pouvoir le faire, mais ce sera aussi peut-être créer dans certains lieux des bornes de recharge solaire ou de se brancher peut-être sur l'éclairage public, sur les candélabres, de telle manière que les gens, en allant faire, en allant acheter leur pain, ils puissent se brancher et recharger donc la batterie de leur vélo. Donc tout cela va faire l'objet d'une étude entre les communautés de communes du département et le Cimenergie 05.
Donc pour le moment, la réponse est non, pas encore.
Réflexion.
Réflexion, voilà. Et on pourra réfléchir à tout ceci dans ce salon Écomobile. Alors le salon Écomobile organisé par le Cimenergie 05, ça va être les 19, 20 et 21 octobre au plan d'eau d'Embrun. Qu'est-ce qui va se passer?
Alors d'une manière générale, on a souhaité mettre en place ce salon Écomobile parce qu'on a senti avec nos partenaires que sont, je le rappelle rapidement, donc l'ADEME, la commune d'Embrun, le conseil départemental et la région, de mettre en place un lieu de rencontre, d'échange, de vulgarisation sur le problème général du véhicule électrique. À titre d'exemple, je voudrais rappeler que, bien sûr, aujourd'hui, l'État souhaite que l'on aille vers le véhicule électrique ou hybride. Les chiffres disent qu'en 2030, nous aurons donc en France 40% des véhicules, soit 15 millions de véhicules qui seront électriques ou hybrides. Bien entendu, avec des véhicules qui vont devenir de plus en plus puissants, qui vont demander de plus en plus d'énergie, ce qui fait qu'on aura de plus en plus besoin de nouvelle énergie. Donc le problème est de savoir si on veut, pour décarboner les villes, et c'est une très belle chose, extrêmement vertueuse, mais pour décarboner les villes, il ne faudrait pas que l'on mette en pression nos systèmes de production d'énergie traditionnels. Je veux dire par là que le Cimenergie a mis en place une stratégie en la matière, de telle manière qu'à l'issue de nos programmes d'investissement, nous puissions être autoconsommateurs. C'est-à-dire que la consommation de nos véhicules électriques soit couverte intégralement par notre propre production. Alors, il faut savoir que, par exemple, nous sommes donc associés dans deux sociétés coopératives, que sont Énergie Collective sur l'Embrunet et Energil sur le Guillestrois. Nous sommes associés à hauteur de 30%. Nous avons nos propres centrales de production d'énergie électrique, ce qui fait qu'aujourd'hui, alors c'est vrai que le parc automobile ou alpin en matière de véhicules électriques n'est que de 400 véhicules, mais aujourd'hui nous couvrons complètement la demande en électricité. Demain, puisqu'on a pris d'autres compétences en matière d'hydroélectricité, la production aussi en hydroélectricité nous permettra et fera que nous pourrons dire que la nouvelle demande sera couverte par de l'autoproduction. C'est-à-dire que nous n'irons pas faire appel au réseau, et c'est l'objectif que l'on s'est fixé. Donc ça, c'est un élément qui fera partie complète d'Écomobile, c'est-à-dire que ça va être un lieu de discussion, parce que on sait qu'il y a beaucoup de discussions à ce sujet, et il y aurait des dérives qu'il faudrait absolument éviter. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça va être un lieu d'échange. Si vous voulez, je peux vous donner un petit peu le programme de ces trois journées.
Très rapidement.
Alors, très rapidement, oui. Alors, le programme, en fait, c'est sur trois journées, le 19, le 20 et le 21 octobre. Le 19, donc, ça, on a souhaité que on ne pouvait pas faire cette manifestation organisée sans salon, sans la participation des enfants. Donc, les écoles, le vendredi, donc, les écoles d'Embrun seront invitées, donc, à participer à des rencontres avec GAP Science Animation, qui fera de la vulgarisation de tous les problèmes d'énergie. Le vendredi après-midi, on aura un après-midi organisé par la Chambre de commerce et d'industrie entre les entrepreneurs, les constructeurs automobiles et les communes pour qu'il y ait, ce soit un lieu d'échange pour d'éventuelles commandes, éventuellement, pour expliquer aux collectivités l'intérêt qu'on peut avoir d'avoir un véhicule utilitaire électrique, etc., etc. À 18h30, on aura donc l'inauguration officielle, donc en présence, nous l'espérons, de Madame la Préfète, des élus régionaux et départementaux. Suivi donc d'un apéritif. Et donc le samedi 20 octobre, nous commencerons donc à 11h30 par une conférence avec l'organisation du rallye e-Monte Carlo, donc c'est le rallye Monte Carlo électrique, avec la présentation des deux équipages au Alpin, dont un qui sera assuré par deux jeunes femmes du Cimenergie 05. Ensuite, on aura tout au long de la journée des shows de trial électrique. C'est-à-dire, c'est extrêmement spectaculaire pour l'avoir vu à Val d'Isère. C'est donc in situ, on va faire évoluer des trials électriques. Ensuite, à 15h, toujours le samedi, on aura une table ronde vers une mobilité durable. C'est ce dont je viens de parler. 16h, un groupe de discussion sur le mal de terre avec un film produit par Hubert Reeves et peut-être sa participation, s'il est en état de santé lui permettant, sur le mal de terre. Donc c'est un film qu'il a produit. Et le dimanche, donc, on aura des débats sur la mobilité électrique et la transition énergétique.
Voilà, donc tout ceci à retrouver sur le salon Écomobile 19, 20 et 21 octobre. Merci Jean-Claude Doux et merci Stéphane Raisin pour votre participation.
Merci.
Merci à vous.